Bonjour et bienvenue dans la chronique Nature sur la Rame. Une chronique, comme d'habitude, en compagnie du Parc National des Écrins, représenté aujourd'hui par Cédric Dantan. Bonjour Cédric.
Bonjour.
Alors Cédric, vous êtes botaniste et donc à ce titre, au sein du parc, vous êtes chargé de mission scientifique pour tout ce qui relève, on va dire, de la botanique au sens large. Et aujourd'hui, vous allez nous parler pas du tout d'une vedette, hein, mais de quelqu'un, de quelque chose qu'on côtoie très couramment. Sans le voir quasiment, on va parler des mousses.
Voilà, ces petites espèces qui passent inaperçues et qui sont pourtant, historiquement parlant, les premiers organismes qui ont colonisé la surface terrestre, donc qui méritent peut-être un petit peu d'attention.
Qui ont colonisé et qui colonisent encore d'ailleurs.
Tout à fait, ça fait partie de leur capacité biologique, c'est-à-dire n'ayant pas de racines, n'ayant pas de fibres comme les arbres pour se dresser et monter en hauteur. Elles ont tendance, on va dire, à vivre avec uniquement l'eau de surface, l'eau d'écoulement, l'eau de pluie, etc. Et donc de se positionner dans n'importe quel type de milieu dès lors qu'elles ont une humidité suffisante pour survivre.
Alors, les mousses qui sont toutes petites, hein, mais qu'on ne trouve pas que dans les milieux humides, on les voit bien sur les toits par exemple.
Alors voilà, c'est une des grandes qualités de ces petites espèces qui, si elles restent toujours petites, hein, c'est n'ayant pas de vaisseau conducteur, c'est-à-dire de vaisseau pour conduire leur sève, elles ne peuvent pas grandir. Elles n'ont pas de racines, ça c'est un point qui est important de retenir, même si elles sont capables de s'agripper sur des toits, des rochers, des parois rocheuses, c'est grâce à des petites expansions de leur organisme, mais elles n'ont pas de racines. Donc elles sont totalement tributaires de l'eau de pluie, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais elles ont cette immense capacité de réviviscence, c'est-à-dire, on peut dire de résurrection, d'une certaine façon, c'est-à-dire elles peuvent se déshydrater très fortement, au point d'apparaître totalement desséchées et mortes. Mais contrairement aux plantes à fleurs, aux plantes de nos balcons, un peu d'eau et elles reprennent une couleur verte éclatante et elles restent tout à fait vivantes, quels que soient les aléas. Donc cette réviviscence, cette capacité à revivre, en fait, hein, si on prend l'étymologie du terme, leur permet de se passer d'eau pendant de très longues périodes, en étant toujours vivantes, malgré leur aspect moribond, et dès les premières gouttes de pluie, à reprendre vie de manière tout à fait spectaculaire.
Alors, est-ce qu'on trouve beaucoup de mousses dans notre département des Hautes-Alpes? Est-ce que c'est un élément important qui constitue notre botanique?
Alors, c'est un élément important et en même temps très largement méconnu encore. Parce que contrairement aux plantes à fleurs qu'on côtoie assez facilement, les mousses sont plus discrètes. Pour les distinguer, il faut souvent avoir recours au microscope. Donc en fait, il y a encore un large domaine de connaissances à étendre pour les mousses du département, même si quand même, on commence à en connaître un certain nombre. Mais si je dois donner un chiffre, une évaluation, on doit être autour de 600 espèces. Ce qui est à la fois pas énorme pour la botanique, puisque si on compare aux plantes à fleurs, on est à un peu plus de 3000 espèces. Mais si je compare aux oiseaux, eh ben, avec 600 espèces, j'ai tous les oiseaux d'Europe quasiment. Donc finalement, c'est une diversité pas inintéressante, mais encore une fois, qui reste encore à creuser assez largement.
Alors des mousses qu'on trouve sur les sols, sur les rochers, sur les toits, on en a parlé, sur les arbres aussi, et là elles côtoient assez facilement les lichens. Sont des cousins les lichens?
Alors ça ressemble, on pourrait les associer par leur petite taille et par effectivement une ressemblance relative, si ce n'est que tout le monde voit à peu près que les lichens ça n'est jamais vert, parce que les lichens ne font pas leur propre photosynthèse, c'est-à-dire ne construisent pas leur sucre à partir de l'énergie solaire, ce que font les plantes. Donc en fait, les lichens sont des champignons, et si on est rigoureux en termes biologiques, les champignons sont un règne à part, c'est-à-dire il y a le règne animal, le règne végétal. Très longtemps, on a considéré les champignons comme faisant partie du règne végétal, mais les champignons sont un règne à part. Donc les lichens font partie de ce règne-là. Et les lichens, par contre, ont eu cette merveilleuse idée, si je puis dire, de s'associer à des petites algues unicellulaires, donc constituées d'une seule cellule, qui, elles, font la photosynthèse, construisent le sucre, qui va permettre aux lichens de s'alimenter en sucre, en fait. D'où leur capacité à pousser dans des conditions complètement extrêmes, semi-désertiques comme les parois de haute montagne, par exemple, grâce à ces petites algues unicellulaires. En contrepartie, le lichen, donc l'organisme champignon, amène des sels minéraux aux algues, qui leur permettent tout autant de vivre à l'intérieur même du champignon. Donc c'est ce qu'on appelle une symbiose, hein, tout simplement, et symbiose qui est un terme qu'on utilise assez fréquemment, mais qui pour le coup a beaucoup de sens en termes biologiques pour les lichens.
Alors pour revenir aux mousses, puisque c'est une plante qui se porte bien en milieu sec comme en milieu humide, est-ce qu'on peut dire que ce sera l'une de celles qui souffrent le moins, par exemple, du réchauffement climatique ?
Alors pour le coup, elle s'échappe pas à la règle que du cas par cas. C'est-à-dire que, comme pour les plantes, il y a des plantes qui survivront très très bien, voire qui seront favorisées par les évolutions climatiques, d'autres qui seront poussées vers une sorte de goulot d'étranglement où elles seront incapables de trouver de nouveaux milieux, de nouvelles conditions climatiques qui leur permettent de survivre. Pour les mousses, il y a un peu de ça. Sachant que quand même, avec leur grande histoire évolutive, c'est-à-dire elles ont conquis le milieu terrestre il y a environ 400 millions d'années, elles ont, on va dire, acquis historiquement des capacités à traverser les épreuves. Donc il y a de fortes chances que les mousses s'adaptent assez bien à ces évolutions climatiques. Mais encore une fois, ces évolutions dont on parle très souvent, la difficulté que l'on a pour prédire comment les organismes vont les traverser, c'est la vitesse de ce changement, qui est relativement unique, on va dire, et qui gêne finalement une adaptation sur du long terme des organismes, parce que l'évolution, c'est un processus assez long. Et les changements climatiques actuels sont très rapides. Donc finalement, ce seront les organismes les plus aptes à évoluer rapidement qui survivront le mieux. Et il y a des mousses, certainement il y aura des mousses parmi elles.
Bon, alors visiblement, il y aura encore beaucoup à dire sur les mousses, mais le temps qui nous est imparti est terminé. Merci Cédric Dantan d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et de nous avoir parlé des mousses.